Et l'action Paquet Noël, c'est une de ces actions qui est conduite, entre autres, par ACP. On est 4 organisations à faire l'action Paquet Noël. Et puis, l'année passée, c'était 117 050 paquets qui ont été récoltés et distribués dans 9 pays de l'ex-bloc de l'Est. 117. Oui, 117 000. Ce n'était pas le record. C'était il y a 2 ans le record. On était à plus de 126 000. Donc, il y a eu un peu moins, mais ça ne fait rien. On a toujours beaucoup de gens qui sont bénis. Et puis à l'action Paquet de Noël, on a vécu quelque chose d'assez particulier l'année passée. Et j'aimerais vous raconter cette histoire puisque vous avez participé à l'action Paquet de Noël. L'année passée, pendant la distribution des paquets en Moldavie, un petit garçon reçoit un paquet pour enfant. Il l'ouvre et il se met à pleurer. Mais pourquoi tu pleures? Ça ne te plaît pas? Au contraire, il y a dedans quelque chose de très particulier. Ce petit garçon rêvait d'un tracteur rouge, vous savez, ces petits tracteurs matchbox, qu'il avait vu dans la vitrine d'un magasin, et il rêvait d'avoir ça, mais sa maman n'a pas les moyens de lui acheter un petit tracteur rouge. Et plusieurs fois pendant l'année, il a demandé à sa maman, « Maman, tu peux m'acheter un petit tracteur rouge ?»« Non, je ne peux pas, je n'ai pas l'argent. On a juste de quoi manger, de quoi payer les factures. Je ne peux pas t'acheter le petit tracteur. »« Oui, mais c'est bientôt Noël, s'il te plaît, achète-moi le petit tracteur. » Et puis il lui dit, « Écoute, je vais regarder si je peux. » Il rentre à la maison, « Non, je n'ai pas pu t'acheter le petit tracteur. Je suis vraiment désolé, il ne restait plus assez d'argent quand j'ai fait les commissions. » Mais ce jour-là, dans le paquet, il y avait le même petit tracteur rouge qu'il avait vu dans la vitrine. Imaginez que Dieu a mis dans le cœur d'une personne ici en Suisse, pas en Moldavie, d'acheter un petit tracteur rouge, de le mettre dans le paquet. Tout à fait inconsciemment, la personne a mis ce petit tracteur rouge, même ne se rappelait même plus qu'elle avait mis un tracteur rouge dans le paquet, que le paquet a été amené dans un lieu de collecte, puis dans une centrale, puis dans un camion. Ce camion, il est parti pour la Moldavie, pas pour la Bulgarie, pas pour l'Albanie, pas pour la Roumanie, non, pour la Moldavie. Et en Moldavie, il est parti dans ce centre-là, pas chez ce partenaire-là. Et puis ce partenaire, il l'a distribué dans ce village-là. Et dans ce village-là, ce garçon a reçu ce paquet, dedans lequel il y avait ce petit tracteur rouge. Le Seigneur est fidèle dans des petites choses. C'est extraordinaire. Et on ne sait pas quelles nouvelles histoires on va entendre cette année. Mais le Seigneur fait les choses et il les fait bien. Et il démontre son amour jusque dans des petits détails, n'est-ce pas? Et oui, le Seigneur veut que nous soyons heureux. Le Seigneur veut notre bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il veut notre bien. Est-ce qu'on comprend qu'est-ce que ça veut dire dans sa globalité que Dieu veut notre bien? Ce matin, vous risquez d'être un peu secoué parce que le message que j'aimerais vous partager, c'est un petit peu mon testament de ce que j'ai appris, de ce que j'ai compris à travailler pendant 12 ans parmi l'Église persécutée. J'ai rencontré des gens qui ont été torturés. J'ai rencontré des gens qui ont échappé à la peine de mort à 2 jours près, donc déjà condamnés, déjà dans le couloir de la mort. J'ai côtoyé des gens qui ont échappé à des attentats. J'ai côtoyé des gens qui ont été surveillés 24 heures sur 24 pendant des mois et des mois. Et j'ai rencontré même un petit jeune qui, 2 mois après que je l'ai rencontré, s'est fait décapiter. Et il avait 5 mois de conversion et 15 ans seulement. Et ces gens-là, ils ont quelque chose d'authentique qui donne envie. On n'a pas envie de finir martyr, n'est-ce pas? On ne veut pas chercher le martyr. Ça sert à quoi de chercher le martyr? On a un Dieu de vie, non? On ne célèbre pas un Dieu de la mort. On célèbre un Dieu de la vie. Donc on ne glorifie pas le martyr. Pourtant la Bible dit, oui, mais les martyrs, ils auront une récompense spéciale. Oui, spéciale, mais on ne glorifie pas le martyr pour autant. Il ne faut pas comprendre mal hein, les choses-là. Oui, le Seigneur, il a quelque chose en réserve pour ces personnes-là, mais on ne va pas se jeter dans la gueule du loup tel un inconscient, pour garder des mots polis, pour une éventuelle gloire plus tard. Non. Où le Seigneur m'appelle ? Comment le Seigneur m'appelle à le glorifier ? Et si je dois le glorifier en mourant dans mon lit, dans la paix, eh bien je le glorifierai en mourant dans mon lit, dans la paix. Ce n'est pas un problème ça. Cherchons pas ce genre de choses de gloire-là. On célèbre un Dieu de la vie. Amen. Et en même temps, la persécution, ça peut faire peur, hein, n'est-ce pas ? On n'a pas tellement envie. On n'a pas envie de voir quelqu'un débarquer dans la, par là, puis dire « Vous êtes tous des mécréants !» Et « Pam, 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 pam !» Pourtant, ça s'est passé encore cette semaine au Nigeria. Il y a une église catholique qui a été prise pour cible, 315 personnes enlevées. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces 315 personnes ? Et puis on parle de la persécution au Nigeria, oui, au Mali, au Burkina Faso, en Syrie. Mais ça c'est loin, vous savez, c'est pas chez nous, ça ne nous concerne pas. Ouais, on parle aussi de l'Allemagne, des Pays-Bas, de l'Angleterre. Ouais, mais c'est trop loin, c'est pas chez nous. De la France. Mais oui, il y a un évangéliste qui a été assassiné en septembre en France. Vous savez, c'est là. À Lyon. On le sait, on y était. On était dans le même quartier, ce soir-là. Ça fait peur. Mais attendez, mais la France, pas l'Arabie Saoudite, la France assassinée. Et je lisais encore des articles cette semaine. La foi chrétienne est la foi la plus persécutée en Europe. Officiellement, dans les chiffres des États, il y a plus de 2200 cas de violence antichrétienne recensés en 2024 en Europe. Des violences, pas juste des actes antichrétiens. Parce que les actes antichrétiens, rien qu'en France, il y en a plus de 1000 par année. Donc quand on balance une pierre dans un vitrail d'une église catholique ou réformée, ça ne change rien, c'est toujours la même chose. C'est un acte, mais ce n'est plus une violence. Tandis que quand on parle de violence, on est directement dans un contact humain. Mais on est dans une réalité d'aujourd'hui. Et ça nous concerne, tous autant qu'on est. Mais on n'a pas nécessairement envie de l'entendre. Et le monde est en train de se durcir sur ce sujet-là. Vous l'avez vu certainement avec les thématiques qui sont mises en avant, et si tu n'es pas dans la lignée de la pensée qu'on aimerait bien que tu prennes, alors tu es un intolérant. Et tu n'as plus le droit d'avoir ton opinion parce que tu es un intolérant. Mais si tu n'es pas seulement un intolérant, aujourd'hui on te traite immédiatement de facho. Mais on ne sait même pas ce que c'est qu'un facho. Mais tu es un facho. Parce que ça fait directement, boum, allez, celui-là tu es à l'extrême, là, allez, ouais. T'es un extrémiste de droite, t'es un facho. Mais j'ai rien dit. Qu'est-ce qui dit que je suis un extrémiste de droite ? Franchement. Ah, mais c'est juste parce que j'ai pas la pensée comme les autres. Puis les autres, c'est les rois de la tolérance. Mais si je pense pas comme eux, alors non, je suis intolérant. M'excusez, il y a quand même un problème, mais ça concerne directement notre foi. Parce que notre foi, elle n'a pas la pensée du monde. Parce que Dieu n'a pas la pensée du monde. Parce que notre Dieu a des valeurs. Et ces valeurs, elles veulent être détruites par la société aujourd'hui, globale. Parce que le diable se déchaîne, il sait que son temps est compté. Il sait. Et le diable veut détruire l'œuvre de Dieu. Il veut emmener les chrétiens avec lui en enfer. Il veut, parce qu'il le sait que son temps est compté. Mais Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Même au cœur de la persécution, nous avons constamment des témoignages de gens qui nous disent « Oui, Dieu est là. » Dieu est là. Et pour ce qu'on va partager tout à l'heure, il faut se rappeler ça. Il faut se rappeler ça absolument. Dieu est là dans ta pièce sombre, quelle que soit ta situation. Il ne t'abandonne pas. Il est avec toi. Il est là. Amen. C'est vraiment important de s'en rappeler. C'est vraiment très important. Parce qu'on va tous vivre des difficultés. Ce n'est pas parce que Dieu m'a abandonné que je vis une difficulté, mais non. Les difficultés, elles peuvent avoir un but. On peut allumer le PowerPoint, s'il vous plaît. Dimanche, l'Église persécutée. On passe au slide suivant. Petite présentation de la mission ACP. La mission ACP est une mission allemande. Oui, oui, il y a des missions qui naissent ailleurs qu'aux États-Unis. C'est une mission allemande qui est née dans les années 70 pour répondre à un cri de détresse de l'église baptiste qui était en Roumanie, qui était déjà persécutée par le gouvernement communiste. Et puis, donc, ce groupe de pasteurs a décidé de faire connaître la situation des chrétiens de l'autre côté du rideau de fer. Et puis, il y a cette association qui est née en 1972, d'abord par une marche silencieuse dans plusieurs villes d'Allemagne. Et puis, en 1988, il y a ACP Suisse qui a été fondée en une association autonome et de droit suisse, même si on est toujours en lien avec AVC Deutschland. C'est le mot en allemand, mais si je le dis en français, ça ne va pas parce que ça fait AVC. Encore que pour travailler dans la mission, il faut avoir quelque chose qui a pété dans le cerveau. Mais bon, en fait, il faut l'abandonner au Seigneur, ça c'est sûr, sinon ça ne marche pas toujours. La mission, donc on l'a traduit en français, ACP, Action pour les chrétiens persécutés et les personnes dans la détresse, c'est un long mot à rallonge. Et puis cette mission, elle a trois mandats, on l'a vu dans le film, soutenir l'Église persécutée, aider les personnes dans la détresse et faire connaître Jésus-Christ. Quand vous arrivez en Roumanie, il y a des inondations gigantesques en 1972, et puis vous ne pouvez pas aider juste les chrétiens. Vous tendez la main à chaque personne qui a besoin et vous lui démontrez ainsi l'amour de Jésus. En prêchant le message derrière, vous permettez à des situations complètement bloquées, des cercles vicieux de pauvreté, de se briser pour amener vers une solution. Et cette solution, c'est Jésus qui l'amène parce que Jésus est le libérateur. Et c'est ce que nous croyons et c'est ce que nous faisons maintenant depuis 35 ans chez ACP Suisse, depuis plus de 50 ans avec ACP International. Passer. Ça, c'est les pays où aujourd'hui ACP est présent. Évidemment, ça a commencé en Roumanie, mais vous voyez qu'aujourd'hui, c'est plus de 69 pays, je crois, où ACP est présent. Donc, ACP Suisse ou Autriche, Allemagne, Italie, Tchéquie et maintenant France et puis bientôt Canada. On a des projets qui sont dans différents pays. Vous avez plusieurs couleurs et le gris foncé, c'est les pays où il y a des projets qui sont gérés par ACP Suisse. Voilà. Donc, vous voyez, on est un petit peu présent partout. Donc, on dit sur 4 continents, parce que l'Amérique du Nord, ce n'est pas encore le cas. Le Seigneur fait une œuvre assez glorieuse, je dois dire, tout au long de ces 12 années que j'ai passées là, j'ai vu des choses assez extraordinaires. Et le Seigneur est fidèle dans son œuvre qu'il a montée, lui. Amen. Ça, c'est ACP Suisse. Alors, quand j'ai commencé, on était 8. Il y avait 7 Suisses allemands et un roman. Tada! Et le petit roman, il a dit « Oh, ça suffit d'être le seul roman » parce que tout d'un coup, on était 22 Suisses allemands et un roman. Alors, il a dit « Si vous pensez que la Suisse romande, c'est important, il faudra engager une deuxième personne. » Parce que la photo, on est 3. Yes, yes. Alors, celui qui a les pantalons rouges tout devant, c'est Didier. C'est mon collègue qui m'a rejoint il y a 2 ans. Et puis, tout derrière, juste au-dessus de Didier, mais tout derrière, celui qui a le pull blanc, c'est Arnaud, c'est notre nouveau graphiste. Et puis, il y a quelqu'un qui va me remplacer, qui est déjà là. Elle s'appelle Gwenaëlle. C'est une jeune diplômée de la HET Pro qui nous rejoint. Puis, elle va s'orienter surtout sur le travail parmi la jeunesse au sein de la mission ACP, alors que Didier va continuer la visite des églises. Voilà. On peut passer. Vous pouvez participer et soutenir la mission ACP. La meilleure façon de participer, c'est chez vous, dans votre chambre, à prier. Est-ce que vous croyez que la prière est efficace? Alors pourquoi vous ne priez pas plus? Ça, c'était HD sans mission qui nous avait dit, le gars, qui était venu nous enseigner sur la prière. C'était génial. La prière, ça marche. Chaque année, il y a des gens qui sortent de prison parce qu'on prie pour eux. Il y a encore 2 semaines, on a dû retirer une carte de prière parce que la personne en Chine, elle a été libérée. Ça marche. Alors prions. Donc vous pouvez vous inscrire sur la liste qui est tout là-bas derrière pour recevoir le lundi matin un email de prière avec des sujets. Et puis comme ça, chaque semaine, vous avez des nouveaux sujets pour prier. Et puis si vous avez envie de prier selon ce que Dieu vous conduit, pas seulement le mail de prière, il y a toutes nos publications pour vous inscrire. Il y a une liste à la sortie, c'est gratuit, ça ne vous engage à rien. Vous n'êtes même pas obligé de prier, mais c'est bien si vous priez. La prière, ça marche, c'est vraiment, vraiment une grosse différence. Et puis, quand on connaît les situations, quand vous lisez les journaux, ce journal-là en particulier, mais d'autres missions, vous êtes aussi en connexion avec MPART. MPART, c'est en Inde, et en Inde, il y a aussi beaucoup de persécutions. Donc, vous pouvez prier quand vous connaissez les situations, c'est plus facile. On peut passer. Donc, priez avec nous. Là, on a aussi sorti un petit fascicule spécialement pour le dimanche de l'Église persécutée. 7 jours de prière, 7 pays. C'est aussi disponible gratuitement à la sortie. Vous pouvez aussi partir en mission. On a parlé de l'action Paquet de Noël. Moi, j'ai organisé 8 voyages, si je ne me trompe pas, dans les pays de l'Est. Cette année, c'est bouclé. On est un peu tard pour s'inscrire encore. Mais l'année prochaine, il y aura d'autres voyages pour aller distribuer vous-même les paquets que vous avez confectionnés. Et puis, ne inquiétez pas, c'est accessible à tout le monde. Moi, j'ai pris avec une petite dame de 84 ans. Ça ne pose pas de problème. Non, non, on n'est jamais trop vieux pour servir le Seigneur. Amen. Voilà, et j'ai pris des jeunes enfants aussi avec. Là, il faut les accompagner s'ils ont moins de 12 ans. On n'est pas responsable de tout. Et puis, c'est bien, si vous voulez prendre vos enfants, c'est possible. Moi, j'ai pris les miens, ils avaient 8 et 10 ans. Puis, je m'en suis occupé. Mais d'autres parents les ont pris aussi. Et puis, ils s'occupent de les conduire. Mais c'est aussi possible de leur faire vivre quelque chose d'un peu différent. On peut aussi donner, évidemment, l'émission « Sa vie par les dons ». Et il y a un truc qui est un peu spécial chez ACP. Vous avez une boutique en ligne. Vous achetez quelque chose, mais on ne va pas vous l'envoyer. Par exemple, vous allez financer spécifiquement le salaire d'un enseignant dans une école au Mali, ou bien une année d'un repas de nourriture pour un enfant en Corée du Nord, ou bien une chèvre pour un chrétien nigérian qui a été déplacé parce que son village a été brûlé par les djihadistes. Et avec une chèvre, puis l'autre, il a aussi une chèvre, et ben on fait... Et puis un bouc, on fait un cheptel. Puis avec ce cheptel, on a du lait, des produits dérivés, des petits bébés, et d'autres chèvres, et d'autres laits, et etc. Donc, acheter une chèvre, vous ne la verrez pas, mais on va en acheter une avec votre argent. Voilà. Voilà pour ACP. C'est un petit peu... ça vous donne un peu... une idée du travail qui est fait sur le terrain. On va voir aussi tout à l'heure un film qu'on a tourné chez un de nos partenaires. Les photos que vous allez voir tout au long de la présentation sont aussi des photos qui ont été prises sur le terrain auprès de nos partenaires. Je vous ai posé la question avant, est-ce qu'on a compris qu'est-ce que ça voulait dire que Dieu prend soin de nous et qu'il veut notre bien ? On va s'intéresser à un texte qui est un peu spécial et j'aimerais bien vous inviter à, s'il vous plaît, ne pas sortir en courant quand on va lire ce texte en disant « Ouh, il va nous parler des choses bizarres, c'est dans la Bible. » D'accord ? Mais ça peut être un peu choquant à la première lecture. Alors, ouvrons notre Bible dans Hébreux 12. Vous avez le texte qui va s'afficher en intégralité sur 3 slides. Mais si vous avez votre propre version que vous préférez, Hébreux 12, les versets 1 à 11. Ça va ? C'est la Bible qui lit à haute voix. Quand on nous dit que la Bible, elle parle. Hein ? Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement, et oui, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. C'est Jésus qui le fait, pas moi, c'est Jésus. En échange de la joie qui lui a été réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Waouh ! Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, c'est-à-dire nous, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme à des fils. Proverbe 3. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Aïe, c'est quoi ça, châtiment? Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Quoi, c'est dans le Nouveau Testament, ça? Oui, oui, c'est là, là. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Ça, c'est pas un texte que j'aime lire souvent, hein. Oh là là. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Aïe. Sérieux? Ouais, mais ça, c'est pas le Dieu qu'on m'a enseigné. Supporte le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Ah. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Waouh ! Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Ah oui, il le reconnaît quand même, hein ? Et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Oups ! La persécution a toujours existé, d'accord ? Elle a existé avant, ceux qui parlaient au nom de Jésus, les prophètes, ils ont été, on a vu, on le voit dans le chapitre précédent, Hébreux 11, on voit les héros de la foi, et puis Jésus est le premier qui a été mis à mort, puis ensuite Étienne, et puis Jacques, si je ne me trompe pas, et puis tant d'autres après. Ça a toujours existé, puis encore aujourd'hui, ça continue. C'est une réalité. 380 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde aujourd'hui. Ça fait un chrétien sur sept, ça fait 5% de la population mondiale. Et tout ça juste parce qu'il porte le titre de chrétien, qui signifie « comme Christ ». Alors évidemment, tout le monde n'est pas persécuté de la même manière. Il y a les chicaneries administratives qui t'empêchent de t'inscrire à l'université. C'est déjà embêtant quand même, hein. Ou bien que tu ne peux pas ouvrir une église parce qu'il faut être enregistré. Puis pour être enregistré, il faut remplir plein de papiers qui n'existent pas. Mais ça peut aller plus loin. Tu n'as pas le droit d'aller au supermarché, tu n'as pas le droit d'aller au puits du village, tu n'as pas le droit d'aller cueillir dans les champs, on t'exproprie, on te met en prison, on te torture, on te tape, on t'accuse à tort, on te torture, on t'enlève, on t'assassine. Alors comme je l'ai dit, ça c'est le Mali, ça fait loin, c'est en Afrique, c'est pas chez nous. Et puis, vous savez, on nous parle aussi de la grande tribulation, et puis ça, mais le Seigneur, il est trop bon pour laisser ça arriver chez nous. Ah bon, pourquoi chez nous? Mais ça se passe déjà ailleurs. Il y a une différence entre les chrétiens au Mali et puis ceux de Suisse. Mais la persécution, elle arrive, peut-être, même chez nous. Pourquoi je dis ça? Parce que dans certains milieux, j'ai entendu des choses comme ça. Mais le Seigneur est trop bon, il ne laissera pas ces choses arriver, donc il enlèvera son Église avant la grande tribulation. Mais les gens souffrent déjà pour Christ, et ils ont toujours souffert pour Christ. Et il y a, à mon sens, deux sources à la persécution. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le diable veut détruire l'œuvre de Dieu. Et il haït, il hait les chrétiens qui marchent pour le Seigneur, qui portent le flambeau de la lumière de Christ, qui proclame la vérité et la parole. Mais ça, c'est la vérité. Et donc, il veut essayer de les détruire. Mais il y a aussi un peuple, le peuple de Dieu, qui s'est installé dans un certain confort et progressivement oublie de dépendre de Dieu. Oui, mais alors, prenons un exemple récent. Avant la révolution islamique, l'Iran était un pays prospère qui comptait environ, je n'ai pas les chiffres exacts, mais 500 chrétiens à majorité arménienne. Ce n'est pas beaucoup, 500. Et ça, on parle de 1973. Ce n'est pas il y a 2000 ans. Avec le régime qui visait à éliminer toute autre foi, y compris musulmane divergente, le nombre de chrétiens a explosé. Et en 2014, on parlait de 500 000 à 1 500 000 chrétiens en Iran. Aujourd'hui, il y a plusieurs dizaines de chrétiens et de pasteurs chrétiens qui sont en prison pour leur foi en Iran. On parlait en 2014 de 5 000 conversions par mois dans la seule ville de Téhéran. La révolution islamique, elle était censée éliminer toute autre foi et en fait, elle a réveillé la foi chrétienne. C'est impressionnant. Et beaucoup de gens ont rencontré Jésus de façon surnaturelle. C'est un modèle, ce qui s'est passé en Iran, qu'on trouve dans d'autres pays avec la persécution. La foi grandit et rappelons que c'est grâce, à cause de la persécution qui a provoqué la dispersion des chrétiens que l'évangile est arrivé jusque chez nous. Mais c'est aussi la foi réelle, expérimentée, vivante qui rend les chrétiens brûlants pour leur Dieu et donc prêts à tout pour que d'autres entendent le message de Dieu qui provoque une certaine persécution et qui amène à l'explosion de la foi. Il n'y a pas que la persécution, il y a aussi le témoignage. Une notion qui est peut-être un petit peu vague chez nous. Est-ce qu'on est vraiment brûlant pour le Seigneur? Tellement brûlant qu'on ne peut pas s'empêcher de parler. On parle beaucoup de guérison en Afrique ou en Asie, pourquoi pas chez nous? Est-ce qu'on a vraiment besoin de Dieu alors? Jésus nous rappelle, sans moi vous ne pouvez rien faire. Oups. Et Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr qu'il est le même hier et aujourd'hui? Donc ça veut dire qu'il fait la même chose qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Vraiment? Bon, alors vous l'avez dit et je vous ai entendu. Hein. Lors de la dédicace du temple, Salomon prie que Dieu se souvienne de son peuple et de ceux qui viendront demander grâce en ce lieu. À quoi Dieu va répondre? Par l'affirmative, oui, mon nom sera sur cette ville et invoqué dans ce temple, mais il y a aussi dans 1 Roi 9 et 2 Chroniques 7, il dit qu'il livrera le pays aux sauterelles, à la peste, aux ennemis, à la destruction, à la déportation, si le peuple ne reste pas fidèle. Mais Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On vient de le dire. Tiens, ça répond à ce qu'on a lu tout à l'heure dans Hébreux 12, n'est-ce pas? On dira, pourquoi l'Éternel a traité de cette manière ce pays? On peut mettre le slide, normalement il y a le texte aussi. Plus loin. Ça c'est l'exemple d'Iran. Voilà, 1 Roi 9. Pourquoi l'Éternel a-t-il traité de cette manière ce pays et ce temple? Et l'on répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'Éternel leur Dieu, qui les a fait sortir d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi l'Éternel a fait venir tous ces malheurs sur eux. Ouais, mais ça c'est l'Ancien Testament. C'est écrit, l'Éternel a fait venir ses malheurs. Depuis quand l'Éternel y fait venir les malheurs? Eh bien c'est la Bible. Je crois à la Bible. Je crois que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans Hébreux 12, dans le texte qu'on vient de lire, il est dit que Dieu châtie celui qu'il aime. Que ce soit dans le nouveau, dans le même, Dieu est le même, il dit, il ne change pas. Mais attention, il châtie pourquoi? Mais parce qu'il nous veut à lui. Parce qu'il sait que c'est le meilleur pour nous. Parce que c'est un Dieu jaloux, il ne veut pas qu'on se perde. Alors il nous rappelle à l'ordre. Il dit, il ne faut pas croire que je vais te laisser dans ton canapé tout confortable. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je te veux à moi, je te veux contre mon cœur, je veux qu'on danse ensemble, je veux qu'on respire ensemble, je veux qu'on prie ensemble, je veux qu'on se réjouisse ensemble. Oh mais toi tu préfères rester sur ton canapé à jouer à TikTok. Mais c'est mon nouveau Dieu peut-être. Dieu nous rappelle à lui. et il peut laisser la persécution arriver jusqu'à moi pour me réveiller, mettre le feu sous la casserole. Ah, mais c'est violent ce que tu nous racontes. Oui, c'est violent. Mais ça me parle à moi, premièrement. Moi, je viens de vivre 2 semaines difficiles. Ben oui, je prêche des messages comme ça, tu m'étonnes. Ben oui, j'ai de la peine, c'est difficile. Mais le Seigneur, il veut que je lui sois collé contre. Il a tellement d'amour pour moi, c'est ce qu'il veut pour moi. Il dit, Régis, tu m'as oublié. Allez, boum, un coup de pied au derrière. Tu vas te secouer, oui. Mais Dieu est bienveillant. Dieu n'est pas méchant avec moi. Il est bienveillant. Un père corrige ses enfants parce qu'il les aime. Alors bien sûr, il ne faut pas voir tous les malheurs qui nous tombent dessus comme la main de Dieu. Comme je l'ai dit avant, le diable, il veut nous détruire, il ne nous aime pas. Mais Dieu le permet, Dieu le permet. Dieu peut-être le peut le provoquer. Mais de toute façon, même quand Satan fait quelque chose, Dieu peut l'utiliser pour le meilleur. D'accord ? Mais parfois, c'est Dieu qui le provoque. Eh oui, c'est Dieu qui le provoque, pas qui le laisse faire, qui le provoque, c'est écrit. C'est Dieu qui a envoyé. Oui, c'est un peu bizarre hein, comme théologie, mais c'est la Bible. Hein. Je suis désolé de le dire, c'est la Bible, c'est écrit noir sur blanc, on vient de le lire ensemble. Hein. Et pourquoi je vous dis ça ? Chers amis, je vous dis ça parce que j'aimerais pas que quand la persécution s'abattra sur nos pays, en Occident, des gens viennent dire « c'est pas le Dieu qu'on m'a enseigné » et qu'ils renient Dieu à cause de ça. Moi, on m'a toujours dit que Dieu, il empêcherait ça, il ne laisserait pas ces choses arriver. Non, c'est pas la Bible. Mais soyons prêts, soyons attachés à Dieu. Parce que c'est quand on est attaché à Dieu qu'on résiste à la persécution. C'est quand on est collé à lui qu'on est fort pour tenir ferme. C'est quand on est dans ses bras qu'on est sous sa protection, même au travers du feu. Mais la persécution, elle arrivera, qu'on le veuille ou non. Et ça, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Et chers amis, que personne vienne dire « c'est pas le Dieu qu'on m'a prêché ». Par exemple, Dieu est un Dieu jaloux et c'est mentionné 7 fois dans l'Ancien Testament. Mais il y a une chose qui est intéressante aussi, je crois que c'est la slide suivante. Non, ça c'est le... Dieu nous travaille, hein, travaille notre cœur. Le révérend Vyayesh Lal, secrétaire général de l'Alliance évangélique d'Inde, a déclaré « À travers le monde entier, dans les cercles chrétiens, on affirme que lorsque la persécution éclate contre les chrétiens, l'Église grandit. » C'est pas juste. Si l'Église grandit, cela dépend toujours de la réaction des chrétiens face à la persécution. Est-ce que je me colle toujours plus à mon Dieu ou est-ce que je renie mon Dieu parce que je le connaissais peut-être mal ? Peut-être, hein ? Si je reviens sur Hébreux 12, c'est aussi de nouveau mis en évidence sur le slide suivant. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Dans les difficultés que tu traverses, demande à Dieu, ça vient de toi ? Et si ça vient de toi, montre-moi ce que je peux apprendre. Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Ne perds pas courage dans la difficulté que tu traverses aujourd'hui. Ne perds pas courage. Il est avec toi. Le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge ce qu'il reconnaît pour ses fils. Regardons le Seigneur comme un Père aimant, qui m'aime et donc qui me corrige, afin que je sois amené moi-même à la perfection et à la sainteté, parce que l'Éternel vient rechercher une église sans tache ni ride. Et je veux en être. Amen. Et quand nous se laissons travailler par le Seigneur, alors nous grandissons de gloire en gloire. Et de la même manière pour l'église qui est persécutée, elle est travaillée par le Seigneur. Mais elle brille toujours plus. Et ceux qui ont été éprouvés par le feu sont encore plus brillants pour le Seigneur. Ils sont encore plus efficaces dans l'évangélisation. Ils sont plus fermes pour accompagner le frère et la sœur qui passent par des difficultés. Parce qu'on n'est pas tout seul. On a Dieu qui est avec nous, mais on a aussi les frères et sœurs. Et on s'encourage et on se soutient mutuellement, notamment dans la prière. Et c'est ce qu'on pourra faire tout à l'heure. parce qu'on ne va pas les oublier, ceux qui passent maintenant par l'épreuve. Que eux aussi, ils n'oublient pas que Dieu peut les châtier afin de les rendre meilleurs. Dieu peut les corriger afin de les exercer pour qu'ils brillent. Et donc, ils ont besoin de notre soutien dans la prière. Amen. Alors, je vais terminer juste avec un verset. Un verset que vous connaissez probablement tous, c'est Psaume 34, verset 20. Le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne dans vos difficultés, dans vos moments difficiles, dans vos épreuves d'aujourd'hui. Ne l'oubliez pas, il est avec vous et on peut en sortir grandi de chaque épreuve qu'il nous propose. Amen.